Chapitre 39. La lettre de Charles Ier. Maintenant, il faut que le lecteur franchisse avec nous la Seine et nous suive jusqu'à la porte du couvent des Carmélites de la rue Saint-Jacques. Il est 11 heures du matin, et les pieuses sœurs viennent de dire une messe pour le succès des armes de Charles Ier. En sortant de l'église, une femme et une jeune fille vêtues de noir, l'une comme une veuve, l'autre comme une orpheline, sont rentrées dans leur cellule. La femme s'est agenouillée sur un prie-dieu de bois peint, et, à quelques pas d'elle, la jeune fille, appuyée sur une chaise, se tient debout et pleure. La femme a dû être belle, mais on voit que ses larmes l'ont vieillie. La jeune fille est charmante, et ses pleurs l'embellissent encore. La femme paraît avoir 40 ans, la jeune fille en a 14. « Mon Dieu !» disait la suppliante agenouillée, « conservez mon époux, conservez mon fils, et prenez ma vie si triste et si misérable !»« Mon Dieu !» disait la jeune fille, « conservez-moi, ma mère !»« Votre mère ne peut plus rien pour vous en ce monde, Henriette, » dit en se retournant la femme affligée qui priait. « Votre mère n'a plus ni trône, ni époux, ni fils, ni argent, ni amis. Votre mère, ma pauvre enfant, est abandonnée de tout l'univers. » Et la femme, se renversant au bras de sa fille qui se précipitait pour la soutenir, se laissa aller elle-même aux sanglots. « Ma mère, prenez courage !» dit la jeune fille. « Ah, les rois sont malheureux cette année !» dit la mère en posant sa tête sur l'épaule de l'enfant. « Et personne ne songe à nous dans ce pays, car chacun songe à ses propres affaires. Tant que votre frère a été avec nous, il m'a soutenu. Mais votre frère est parti. Il est à présent sans pouvoir donner de ses nouvelles, ni à moi ni à son père. J'ai engagé mes derniers bijoux, vendu toutes mes hardes et les vôtres, pour payer les gages de ses serviteurs qui refusaient de l'accompagner si je n'eusse fait ce sacrifice. Maintenant, nous en sommes réduites de vivre aux dépens des filles du Seigneur. Nous sommes des pauvres secourus par Dieu. « Mais pourquoi ne vous adressez-vous pas à la reine, votre sœur ? » demanda la jeune fille. « Hélas, dit l'affligée, la reine, ma sœur, n'est plus reine, mon enfant, et c'est un autre qui règne en son nom. Un jour, vous pourrez comprendre cela. « Eh bien alors, au roi, votre neveu, voulez-vous que je lui parle ? Vous savez comme il m'aime, ma mère. » « Hélas, le roi, mon neveu, n'est pas encore roi. Et lui-même, vous le savez bien, la porte nous l'a dit 20 fois, lui-même manque de tout. » « Alors, adressons-nous à Dieu, » dit la jeune fille. Et elle s'agenouilla près de sa mère. Ces deux femmes qui priaient ainsi, au même prie-Dieu, c'étaient la fille et la petite fille de Henri IV, la femme et la fille de Charles Ier. Elles achevaient leur double prière lorsqu'une religieuse gratta doucement à la porte de la cellule. « Entrez, ma sœur, » dit la plus âgée des deux femmes en essuyant ses pleurs et en se relevant. La religieuse entr'ouvrit respectueusement la porte. « Que votre majesté veuille bien m'excuser si je trouble ses méditations, » dit-elle. « Mais il y a au parloir un seigneur étranger qui arrive d'Angleterre et qui demande l'honneur de présenter une lettre à votre majesté. « Oh, une lettre du roi peut-être. Des nouvelles de votre père sans doute. Entendez-vous, Henriette ?»« Oui, madame, j'entends et j'espère. » « Et quel est ce seigneur, dites ?»« Un gentilhomme de 45 à 50 ans. » « Son nom, a-t-il dit son nom ?»« Milord de Winter. » « Milord de Winter !» s'écria la reine, « l'ami de mon époux ! Eh, faites entrer, faites entrer !» Et la reine courut au-devant du messager, dont elle saisit la main avec empressement. Lord de Winter, en entrant dans la cellule, s'agenouilla et présenta à la reine une lettre roulée dans un étui d'or. « Ah, Milord !» dit la reine, « vous nous apportez 3 choses que nous n'avions pas vues depuis bien longtemps. De l'or, un habit dévoué et une lettre du roi, notre époux et maître. » De Winter salua de nouveau, mais il ne put répondre tant il était profondément ému. « Milord, dit la reine, montrant la lettre, vous comprenez que je suis pressé de savoir ce que contient ce papier. » « Je me retire, madame, » dit De Winter. « Non, restez, dit la reine, nous la lirons devant vous. Ne comprenez-vous pas que j'ai 1000 questions à vous faire ?» De Winter recula de quelques pas et demeura debout en silence. La mère et la fille, de leur côté, s'étaient retirées dans l'embrasure d'une fenêtre et lisaient avidement, la fille appuyée au bras de la mère, la lettre suivante. « Madame et chère épouse, nous voici arrivés au terme. Toutes les ressources que Dieu m'a laissées sont concentrées en ce camp de Nazbi, d'où je vous écris à la hâte. Là, j'attends l'armée de mes sujets rebelles et je vais lutter une dernière fois contre eux. Vainqueur, j'éternise la lutte. Vaincu, je suis perdu complètement. Je veux, et dans ce dernier cas, hélas, quand on en est où nous en sommes, il faut tout prévoir. Je veux essayer de gagner les côtes de France. Mais pourra-t-on, voudra-t-on y recevoir un roi malheureux qui apportera un si funeste exemple dans un pays déjà soulevé par les discordes civiles? Votre sagesse et votre affection me serviront de guide. Le porteur de cette lettre vous dira, madame, ce que je ne puis confier au risque d'un accident. Il vous expliquera quelle démarche j'attends de vous. Je le charge aussi de ma bénédiction pour mes enfants et de tous les sentiments de mon cœur pour vous, madame et chère épouse. » La lettre était signée, au lieu de Charles roi, Charles encore roi. Cette triste lecture, dont De Winter suivait les impressions sur le visage de la reine, amena cependant dans ses yeux un éclair d'espérance. « Qu'il ne soit plus roi, s'écria-t-elle, qu'il soit vaincu, exilé, proscrit, mais qu'il vive !»« Hélas, le trône est un poste trop périlleux aujourd'hui pour que je désire qu'il y reste. »« Mais dites-moi, milord, continua la reine, ne me cachez rien, où en est le roi? Sa position est-elle donc aussi désespérée qu'il le pense ?»« Hélas, madame, plus désespéré qu'il ne le pense lui-même. Sa majesté a le cœur si bon qu'elle ne comprend pas la haine, si loyal qu'elle ne devine pas la trahison. L'Angleterre est atteinte d'un esprit de vertige qui, j'en ai bien peur, ne s'éteindra que dans le sang. « Mais Lord Montrose, répondit la reine, j'avais entendu parler de grands et rapides succès, de batailles gagnées à Inverlochy, à Aldherne, à Alford et à Kilsyth. J'avais entendu dire qu'il marchait à la frontière pour se joindre à son roi. Oui, madame, mais à la frontière il a rencontré Leslie. Il avait lassé la victoire à force d'entreprises surhumaines. La victoire l'a abandonné. Montrose, battu à Philippeaux, a été forcé de congédier les restes de son armée et de fuir déguisé en laquais. Il est à Bergen, en Norvège. « Dieu le garde, dit la reine, c'est au moins une consolation de savoir que ceux qui ont tant de fois risqué leur vie pour nous sont en sûreté. Et maintenant, milord, que je vois la position du roi telle qu'elle est, c'est-à-dire désespérée, dites-moi ce que vous avez à me dire de la part de mon royal époux. « Eh bien, madame, dit De Winter, le roi désire que vous tâchiez de pénétrer les dispositions du roi et de la reine à son égard. « Hélas, vous le savez, répondit la reine, le roi n'est encore qu'un enfant, et la reine est une femme, bien faible même. C'est monsieur de Mazarin qui est tout. Voudrait-il donc jouer en France le rôle que Cromwell joue en Angleterre ? Oh non, c'est un Italien souple et rusé, qui peut-être rêve le crime, mais n'osera jamais le commettre. Et tout au contraire de Cromwell, qui dispose de deux chambres, Mazarin n'a pour appui que la reine dans sa lutte avec le Parlement. Raison de plus alors pour qu'il protège un roi que les parlements poursuivent. La reine hocha la tête avec amertume. « Si j'en juge par moi-même, milord, le cardinal ne fera rien. ou peut-être même sera-t-il contre nous. Ma présence et celle de ma fille en France lui pèsent déjà, à plus forte raison celle du roi. Milord, ajouta Henriette en souriant avec mélancolie, c'est triste et presque honteux à dire, mais nous avons passé l'hiver au Louvre sans argent, sans linge, presque sans pain, et souvent ne nous levant pas faute de feu. Horreur ! S'écria de Winter, la fille de Henri IV, la femme du roi Charles. Que ne vous adressiez-vous donc, madame, au premier venu de nous ? Voilà l'hospitalité que donne à une reine le ministre auquel un roi veut la demander. Mais j'avais entendu parler d'un mariage entre monseigneur le prince de Galles et mademoiselle d'Orléans, dit de Winter. Oui, j'en ai eu un instant l'espoir. Les enfants s'aimaient. Mais la reine, qui avait donné d'abord les mains à cet amour, a changé d'avis. Mais monsieur le duc d'Orléans, qui avait encouragé le commencement de leur familiarité, a défendu à sa fille de songer davantage à cette union. « Ah, milord, continua la reine, sans songer même à essuyer ses larmes, mieux vaut combattre comme a fait le roi, et mourir comme il va faire peut-être, que de vivre en mendiant comme je le fais. » « Du courage, madame, dit de Winter, du courage, ne désespérez pas. Les intérêts de la couronne de France, si ébranlés en ce moment, sont de combattre la rébellion chez le peuple le plus voisin. Mazarin est homme d'État, et il comprendra cette nécessité. » « Mais êtes-vous sûr, dit la reine d'un air de doute, que vous ne soyez pas prévenu ?»« Par qui ? Demanda de Winter. « Mais par les Joyce ! Par les Pride, par les Cromwell, par un tailleur, par un charretier, par un brasseur. Ah, je l'espère, madame, le cardinal n'entrerait pas en alliance avec de pareils hommes. Et qu'est-il lui-même ? Demanda madame Henriette. Mais pour l'honneur du roi, pour celui de la reine. Allons, espérons qu'il fera quelque chose pour cet honneur, dit madame Henriette. Un ami possède une si bonne éloquence, milord, que vous me rassurez. Donnez-moi donc la main et allons chez le ministre. Madame, dit de Winter en s'inclinant, je suis confus de cet honneur. Mais enfin, s'il refusait, dit madame Henriette s'arrêtant, et que le roi perdit la bataille. Sa majesté alors se réfugierait en Hollande, où j'ai entendu dire qu'était monseigneur le prince de Galles. Et sa majesté pourrait-elle compter pour sa fuite sur beaucoup de serviteurs comme vous ? Hélas non, madame, dit de Winter, mais le cas est prévu, et je viens chercher des alliés en France. Des alliés, dit la reine en secouant la tête. Madame, répondit de Winter, que je retrouve d'anciens amis que j'ai eus autrefois, et je réponds de tout. Allons donc, milord, dit la reine avec ce doute poignant des gens qui ont été longtemps malheureux. Allons donc, et que Dieu vous entende. La reine remonta dans sa voiture, et de Winter, à cheval, suivi de deux laquais, l'accompagna à la portière.